Sésame, ouvre-toi.
Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi.
Sésame, ouvre-toi. L'émission qui pousse les portes et qui trouve des pépites. Une proposition à deux voix de Camille Rizard et Marie Biou sur Radio Vassivière.
Il utilise la détente du corps pour nous permettre d'ouvrir notre conscience.
À chaque épisode, nous partons à la découverte d'un lieu extraordinaire chargé d'histoire. L'occasion de rencontrer des personnes inspirantes qui nous ouvrent leurs portes.
Pour la séance d'aujourd'hui, nous aurons juste besoin d'une chaise. L'exercice s'appelle « S'ouvrir au monde ».
Il y a quelqu'un ?
Non, il n'y a personne.
Ah bon ?
Épisode 2, le parc arboretum de Saint-Sautier.
C'était un pari d'acquérir ce lieu, quoi. À cet âge-là, beaucoup de gens m'ont dit « Mais à ton âge, tu devrais pas te lancer dans une histoire pareille, quoi. » J'ai installé des bancs un peu partout. Je voudrais que des gens viennent à l'arboretum, s'installent, lisent un livre, regardent le paysage, prennent du temps pour apprécier le lieu.
Micros en main, nous entrons dans le parc arboretum de Saint-Sautier à la recherche de Guiganroc, son propriétaire. Nous le trouvons sans tarder, en plein chantier. Première étape de la rencontre, la visite du parc.
Et je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais, la vie
Ici, on est à l'entrée du parc et ce que les gens remarquent quand ils arrivent, c'est cette allée de tuyas géants qui font quelques-uns plus de 4 mètres de circonférence, 35 mètres de haut, il y en a 8 et c'est assez impressionnant. Autrement, ici, il y a aussi le podium où nous faisons des animations, des petits spectacles tout l'été. Les gens s'installent, c'est un amphithéâtre naturel. Alors tout ce qui est spectacle autour des arbres, de la nature, ben, c'est vraiment bienvenu ici. Et ça fonctionne bien. Il y a un public un peu fidèle. On a 90-100 personnes à chaque fois, quoi. J'ai proposé des visites guidées qui s'appellent la balade des cinq sens. Le premier sens, c'est la vue. Et ici, en faisant un tour à 360 degrés, eh bien, on a une trentaine d'espèces d'arbres que l'on peut voir. Là, vous avez un gros massif de rhododendrons derrière aussi. Donc fin mai, début juin, tout ça, c'est fleuri. Bon, les yeux peuvent se balader et tout en écoutant, en regardant le spectacle aussi, quoi.
Les arbres font partie du spectacle.
Ah oui, 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 oui. Alors, un des premiers spectacles qui ont eu lieu ici, c'était la pièce de théâtre tirée du livre de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres. Et ça a vraiment été une réussite. Et les comédiens étaient très heureux de pouvoir donner ce spectacle ici, au milieu des arbres. C'était la première fois qu'ils le faisaient en extérieur, au milieu des arbres.
Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié, du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant.
Vous y connaissiez déjà en arbre avant de venir ?
Oui, dans mon historique rapide, je vous ai dit que je venais de Bretagne. Je suis fils d'agriculteur et chez nous, on avait beaucoup d'arbres à la ferme. Et à chaque fois qu'il y avait une naissance, on plantait un chêne. Et puis j'avais surtout un frère qui était menuisier ébéniste. Donc les essences d'arbres et de bois, je connaissais un petit peu. Et puis après, à partir de 2014, je me suis intéressé davantage, quoi, pour découvrir des nouvelles essences. Et ici, quand je suis arrivé, j'ai appris à connaître de nouvelles essences. Alors maintenant, je connais toutes les essences qui sont présentes ici. mais je n'ai pas au départ de formation dans ce domaine. Quoi. Je le fais par passion.
On continue la balade ?
J'ai ici un magnifique spécimen de hêtre que j'appelle le roi de la Corrèze, mais aussi le roi un peu de l'arboretum, parce que il se développe librement et a une envergure très importante. Alors, regardez, c'est celui qui s'étale, qui ne partage pas son territoire. Il y a à côté un bouleau qui a pris peur, qui s'évade un peu, parce que monsieur le hêtre domine. On arrive ici dans un autre endroit où il y a une fleur, une plante qui est très rare à cette altitude. Je vous rappelle qu'on est à 815 mètres ici.
Ah oui.
Et j'ai une Gunnera manicata. Alors c'est une plante qui est originaire du Brésil. Ça va croître de presque 10 cm par jour. Ça va très très vite et ça atteint 3 mètres de haut avec des feuilles qui font 2 mètres d'envergure. Et les fleurs, il y a une fleur qui est au fond là-bas. Vous voyez ?
On poursuit la visite sur les traces des anciens propriétaires du parc et des générations qui l'ont façonné.
Là, on passe devant le plus vieil arbre du parc. C'est un hou de 1710.
Et donc 1710, oui. Qui a planté ce hou, vous le savez ?
Les dates ont été inscrites par la famille qui était là avant moi, qui habitait ici depuis des générations. La maison, le pigeonnier qu'il y a à côté, ont été construits en 1620. Et donc, après, cette famille a acquis la maison un peu plus tard, mais c'était des familles de notaires bien connues dans le coin qui se transmettaient la propriété de génération en génération. Et à la fin, la famille Nadalon qui, a voulu ouvrir le parc aux visites. Quoi. Alors qu'avant, c'était un peu un lieu privé qui recevait du monde, mais un peu privé.
Et avant, par rapport, comme il y a des arbres qui datent de différentes époques, est-ce qu'ils ont été plantés ? Sûrement que oui. Comment ils sont arrivés jusque-là, tous ces arbres ?
Oui, peut-être que les houx ici viennent de façon naturelle. Comme les chênes, il y a un chêne de 1736, mais ils sont venus de manière naturelle. J'ai à la maison des photos anciennes où il y avait très peu d'arbres dans le parc. C'est surtout les dernières générations qui ont planté, et notamment M. et Mme Nadalon qui ont planté il y a environ 50 ans. Il y a pas mal d'arbres qui ont une centaine d'années, d'autres donc 300 ans, mais la plupart des autres ont été plantés il y a 50-60 ans. Quoi. Mais en 50-60 ans, les arbres atteignent des grandes hauteurs. Comme ici, on arrive dans un endroit où il y a des arbres qui font 35 mètres de haut, et bien ils ont 50 ans, pas plus. On peut peut-être aller là-bas aussi. Hein, Et là, il y a un rond, chaque année, depuis 3 ans maintenant, dans le cadre des animations qui ont lieu ici, on fait une journée de fabrication de mandalas. Alors, l'an dernier, un couple là avait réalisé ici un mandala. Un mandala où du land art, c'est destiné à vivre sa vie, et puis on le laisse, il disparaît. Mais quand... ce couple a réalisé ce mandala, il était vraiment magnifique.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futées. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. près de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux.
Nous demandons à Guy de nous emmener dans son lieu préféré.
Bah, je vous propose finalement de m'installer là. Nous sommes à côté du chêne le plus vieux du parc, qui est daté de 1736. Et il y a un endroit où j'aime m'asseoir, c'est là. Alors, sans pratiquer la sylvothérapie, une amie avait essayé de me convaincre d'embrasser les arbres, de sentir les vibrations. Alors, j'ai essayé de le faire. Bon, je ne suis pas suffisamment réceptif, sans doute, pour ressentir les mêmes choses qu'elle, qui a une très grosse sensibilité. Mais je lui ai dit que j'adorais m'asseoir au pied d'un arbre, le dos appuyé contre son tronc, et bien là, je suis bien à cet endroit. Donc je suis assis sur une excroissance du plus vieux chêne du parc, le dos adossé à son tronc, et bon, dans un endroit assez sympathique. Alors, sans ressentir les vibrations du chêne, quand je me pose ici, je suis quand même vraiment bien, quoi.
Alors justement, ça tombe bien que vous soyez assis, parce qu'on va vous proposer une petite pratique. Ah.
Souvent je ferme les yeux, j'observe et là ma prose explose. J'apprends à garder l'œil ouvert avec les paupières closes. Quand je les ferme, je sens léviter mes rêves. Je ne les rouvrirai que pour qu'un jour la vérité me les crève. Je
cherche. Donc là, ça va être très simple. On va vous demander de fermer les yeux, de recentrer votre attention au niveau de votre corps, de vos points d'appui, sentir vos pieds, justement ces points d'appui contre ce beau chêne. Et puis on va vous demander de nous décrire, les yeux fermés, le paysage qui s'offre devant vous.
Alors, à cet endroit, je suis presque dans le chêne. Et à ma droite, il y a un sentier où les gens passent. Et à ma gauche, aussi un sentier où les gens reviennent. Sur la gauche, il y a le ruisseau en contrebas. Dans cet endroit, bien, on est vraiment au cœur du parc. On entend les oiseaux.
Nous proposons à Guy de rouvrir les yeux et de poursuivre la visite à la découverte de la gestion forestière du parc.
Bon, je veux vous montrer encore ces plantations nouvelles. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une expérimentation pour certaines espèces. Là, j'ai mis un cèdre de l'Atlas. Donc on commence à en voir en Haute-Corrèze des cèdres de l'Atlas. J'ai mis un micocoulier de Provence. On en voit aussi sur le plateau de Mille Vaches, mais assez peu. On essaie comme ça des nouvelles espèces et pour voir. Ça peut renseigner aussi les forestiers sur l'évolution des plantations sur le plateau. Peut-être qu'un jour, il y aura un parasite qui va attaquer le sapin de Douglas et ce sera une catastrophe ici. Donc il faut essayer de voir si d'autres espèces, bon, même qui produisent du bois, quoi, arrivent à se développer rapidement et ici, quoi.
Et oui, l'Arboretum de Saint-Sautier, ce n'est pas seulement un parc à visiter. C'est aussi un formidable terrain d'expérimentation sylvicole pour mieux anticiper l'avenir de la forêt.
Ici, on est vraiment dans la partie basse de l'arboretum. On entend le ruisseau. Il y a un ruisseau ici, un ruisseau de l'autre côté, qui ne tarisse jamais. Donc c'est très agréable de voir l'eau circuler. Les gens de Perpignan nous envieraient certainement beaucoup.
Et vous nous avez parlé, alors je ne sais pas si c'est le moment, vous nous avez parlé d'une histoire des mutins de la Courtine en lien avec Saint-Sautier.
Oui.
Est-ce qu'il y a un lien aussi précisément avec l'arboretum ou pas ?
Eh bien, oui, certainement, mais c'est à vérifier historiquement. On m'a dit que les mutins de la Courtine, donc les prisonniers russes qui étaient à la Courtine, s'étaient évadés, étaient venus à Saint-Sautier et avaient été un peu employés dans des propriétés pour planter des arbres. Et alors toute l'allée d'arbres qui se trouve le long de la route départementale ici, à l'intérieur de l'arboretum, aurait été plantée en 1917. Alors l'incertitude, c'est est-ce que ça a été planté par des prisonniers russes ou des prisonniers allemands ? On ne sait pas bien, mais on sait que ça a été planté par des prisonniers. Et ça a un intérêt dans l'arboretum parce qu'ils ont planté différentes essences. Et on voit la différence de pousse entre les différentes essences. Et là, eh ben, on est bien obligé de constater que le Douglas se développe plus vite, plus haut, plus fort que les autres. Quoi. Les Douglas ont des dimensions phénoménales. À côté, il y a des épicéas, ils sont plus petits. Des hêtres, ils sont plus petits. Des tilleuls, ils sont plus petits. Il y a même des mélèzes, ils sont moins gros aussi. Le Douglas, vraiment, est l'arbre qui réussit le mieux à produire du bois rapidement et c'est un bel arbre aussi, enfin, qui donne du bois pour des charpentes, qui a une bonne résistance. Donc ça explique pourquoi Marius Vazeille sur le plateau et puis d'autres ont conseillé de planter du Douglas. Le problème, si on peut dire, c'est qu'on a planté trop en mono-espèce. Il faudrait peut-être un peu maintenant diversifier, mais les forestiers le savent. Hein, et maintenant, beaucoup repeuplent en deux ou trois essences différentes. Ça limite les risques de sanitaires. Alors juste derrière vous, vous avez un endroit là où il y a un arbre qui est tombé. Victime de la pluie et du vent, et il s'est cassé et donc j'ai dû le déblayer quoi. Voilà, ça arrive aussi, mais je plante plus qu'il n'y a d'arbres à tomber.
C'est un lieu vivant, de toute façon, c'est ce que vous dites, Sarah.
Oui.
Voilà, ça vit, ça meurt,
oui.
Il y a tout un cycle.
Oui, oui. Et puis, il y a aussi des arbres morts qui ont leur utilité au point de vue biodiversité, parce qu'ils accueillent des oiseaux. Là, j'en ai quelques-uns. Enfin, là, dans ce peuplier, vous voyez, au milieu du tronc, il y a un trou. Et donc, il y a un pivert qui se loge là. Alors, autre aspect aussi dans mon travail, c'est de remettre en lumière des arbres qui avaient disparu. Ici, qui n'étaient pas visibles, disons. Ici, il y a un marronnier. Et quand je suis arrivé ici, il y avait un noisetier. Et un noisetier, ça s'étale beaucoup. Il faisait 10 mètres de haut. Et je n'avais même pas constaté qu'il y avait un marronnier.
Tous ces fous sont tombés. Docteur, que faut-il faire pour le soigner ?
Donnez-lui des pastilles, des gouttes sous les racines, un peu de smetana, jamais de chocolat. Donnez-lui du riz, de la vache qui rit. Mettez-le au lit et il sera guéri.
Un jour, je passe sur ce sentier, je vois des marrons par terre. Mais je me suis dit, qui a apporté ça là ? Je lève les yeux et ben. Derrière le massif de noisetiers, il y avait ce marronnier. Et donc, comme j'ai énormément de noisetiers ici et de houx, ben j'ai coupé cette touffe de noisetiers pour mettre en lumière le marronnier qui produit ces marrons. Voilà.
Vous rééquilibrez un petit peu les choses.
Oui, je veux que tout le monde ait sa place. Surtout, là, un marronnier, j'en ai qu'un dans le parc sur les 3 hectares. Alors que des noisetiers, j'en ai partout, partout.
On remonte doucement.
Come away with me in the night. Come away with me. come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And I want.
Nous remontons maintenant vers la belle bâtisse qui domine le parc et poursuivons la discussion autour d'un thé. Nous plaçons une vingtaine de cartes sur la table. Des cartes aux illustrations variées et colorées, idéales pour laisser parler l'inconscient et l'imaginaire.
Je distribue les cartes de ma vie. Pourtant, je ne joue pas pour gagner. Y a pas d'argent à la fin de la partie. Jamais de gloire si on a triché.
Donc l'idée, c'est de ne pas activer les neurones et d'essayer de trouver des éléments qui font appel à votre histoire ou au mental, mais plutôt vous, de vraiment de vous recentrer puis de se dire, tiens, instinctivement, quelle carte m'attire quand je me pose cette question, quelle est mon histoire avec le lieu, comment s'est passée la rencontre?
Alors, spontanément, j'ai choisi une carte de suite. Donc c'est une carte... où il y a une porte ouverte sur la nature, avec devant un pré avec de multiples fleurs bien fleuries. Ensuite, la verdure du pré à l'horizon, jusqu'à l'horizon, et ensuite un ciel avec des nuages. Donc la porte est grande ouverte sur... plein de possibles, quoi. C'est ça qui m'a vraiment intéressé.
Et en quoi ça évoque pour vous votre histoire avec ce lieu?
Mais parce que dans ma vie, j'ai, pour les gens qui me connaissent, j'ai pas mal bougé. Bon, après avoir quand même travaillé pendant 25 ans chez un seul employeur à Saint-Malo, après je suis parti dans le Jura, dans l'Ain. Et là, à 65 ans, j'arrive ici, en Corrèze, parce que je me suis toujours dit que il ne faut jamais être résigné. Et il faut suivre ses intuitions. Et vraiment, ici, c'était un pari d'acquérir ce lieu, quoi, à cet âge-là. En se bagarrant pour avoir de l'argent, financer ce projet, quoi. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais à ton âge, tu devrais pas te lancer dans une histoire pareille, quoi. Et moi, cette porte ouverte sur des possibles que l'on n'imagine pas avant, c'est vraiment très fort dans ma vie, quoi. J'ai voulu souvent tenter des choses. Bouger, accueillir l'avenir positivement. J'ai eu des discussions récemment avec des gens qui sont très pessimistes. Ben c'est vrai, il y a le réchauffement climatique, il y a des inquiétudes parce qu'il y a des guerres, il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils ont peur que leur enfant meure prématurément. À cause de la fin du monde, je ne suis pas du tout dans cette ambiance morose. Je crois fortement en l'homme. Ce n'est pas par hasard que j'ai travaillé toujours dans le social toute ma vie, donc en essayant de tisser des liens entre les gens. Et je crois profondément que les gens, quand ils se regroupent, sont capables de choses merveilleuses, quoi. Alors, je suis d'un naturel optimiste. Et... cette carte, ça représente ce que je vis, ce que j'ai vécu et ce que j'essaie de transmettre en disant à tous, bon, allez vers l'avant, ouvrez de nouvelles portes, lancez-vous, il ne faut pas avoir peur de l'avenir et des autres, hein, ni de l'environnement. Enfin voilà, il faut jouer avec ses atouts, quoi, et puis bousculer des portes, voilà.
Vous aviez parlé de votre âge, on se pose une question avec Marie, quel âge avez-vous, c'est pas, si c'est...
68 ans, oui.
Donc c'est courageux, en effet, oui, de se dire... Oui. D'entreprendre un tel projet.
Bon, c'est... je suis allé... pour acquérir ce lieu, je suis allé voir des banques et j'ai obtenu un prêt sur 20 ans. Alors vous voyez, c'est un pari sur l'avenir. J'espère pouvoir le rembourser avant. Mais bon, je ne pensais pas que ce serait possible. Et beaucoup d'amis m'ont dit, mais ça ne va pas dans ta tête, quoi, tu te lances dans un truc... Voilà, et puis ça va te demander beaucoup de travail, tu vas t'épuiser. Et ben non, pour l'instant, j'ai une bonne santé et je pense que mes activités physiques dans l'arboretum me conservent aussi en bonne santé. Bon, comme d'autres, je vais m'épuiser. Au bout d'un moment, je vais baisser. La forme va s'en aller petit à petit, mais... Pour l'instant, je joue ma carte à fond, quoi. Et puis je prends mon plaisir dans l'entretien et l'animation de cet arboretum.
Vous y passez combien de temps de travail là ?
Ah, plus qu'un plein temps, oui. Mmh. Oui, oui. Pour l'instant, comme je fais moi-même, alors j'ai quelquefois des personnes qui viennent en woofing, c'est-à-dire je les loge, je les nourris et ils m'aident un petit peu. Et autrement, des amis qui sont aussi... très intéressé de venir me rejoindre, qui partage mon goût pour les arbres et qui me donne un coup de main pendant 2-3 jours. Donc, petit à petit, avec patience et persévérance, on arrive à un parc qui est agréable à visiter, quoi.
On est bien d'accord sur ce point, qu'il est agréable à visiter.
Tout en restant très nature.
Oui, c'est vraiment cet équilibre qu'on a remarqué en marchant. Il y a un côté sauvage et en même temps,
oui.
On sent que c'est quand même... Il y a une structure.
Alors là, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé les tontes d'herbe. De la même façon, j'ai des endroits que je ne tombe pas. Et j'ai des petits massifs de myosotis, vous avez vu, qui sont bien fleuris bleus. Alors, la tondeuse, je fais tout le tour. Je garde les herbes fleuries, comme les pissenlits aussi, parce que les abeilles vont dessus.
On n'est pas sur un terrain de golf ici.
Non.
C'est justement cet équilibre qui a permis à Guy de décrocher cette année la précieuse labellisation Jardin Remarquable.
Un label encore peu attribué en Haute-Corrèze, qui valorise l'entretien raisonné ainsi que l'ouverture du lieu au public et son animation.
Nous demandons à Guy de fermer les yeux et de prendre de la hauteur par rapport à sa vie. S'imaginant sur un tapis volant, une montgolfière ou un oiseau, il observe d'en haut les moments forts de son existence, les grandes étapes qui ont fait qu'il est là aujourd'hui, propriétaire de cet arboretum à Saint-Seutier.
Comment faites-vous cela ?
C'est un tapis volant.
Il est magnifique.
Est-ce que ça vous dirait d'aller faire un tour ?
S'envolant, le tapis volant, s'en va survolant les monts, les plaines. S'envolant, le tapis volant, s'en va survolant les continents.
Je vous invite à fermer les yeux, ramener votre attention à l'intérieur. Je vous laisse le temps de laisser remonter les souvenirs qui veulent bien venir. Et puis vous pourrez nous en parler.
Oui, alors je vais remonter très loin dans ma vie. Puisque à l'âge de 13 ans, j'ai été atteint par une maladie qui m'a impacté pendant une année entière. J'ai eu des rhumatismes articulaires aigus après une angine mal soignée. Alors, les rhumatismes articulaires aigus, ça paralyse un peu les membres inférieurs. J'ai eu un coup d'arrêt au moment de l'adolescence dans la vie d'un jeune qui a envie de bouger, quoi. Et donc, avec du recul, ça m'a vraiment forgé le caractère. Et ça m'a appris à être un peu plus patient, à être persévérant et à relever des défis, finalement. Alors, la seconde chose qui est importante dans ma vie, si je suis comme un goéland au-dessus de ma vie, c'est la permanence de mon action sociale, quoi. Enfin, j'ai toujours travaillé dans le milieu social, donc tisser des liens, rapprocher les gens, ça a été le cours continu de ma vie professionnelle, quoi, si vous voulez. Alors, c'est très important, même maintenant, parce que j'accueille les gens ici sans distinction de quoi que ce soit. Hein, voilà, tout le monde est bienvenu. Et puis alors, pour revenir ici, j'ai vécu un moment fort en 2014 où je me suis engagé pour une ONG qui fait de la reforestation au Guatemala. J'ai rencontré là-bas des gens qui sont passionnés par leur action, parce qu'ils luttent contre la déforestation et ils luttent presque au péril de leur vie parce qu'ils ont reçu des menaces de mort à de nombreuses reprises. Et malgré tout, depuis 25 ans, ils plantent des armes. Et c'est une action volontaire, risquée, mais si importante pour la planète. Alors, cette rencontre a été un peu déterminante pour cette dernière partie de ma vie qui m'a conduit ici, quoi. Donc, j'ai épousé un peu cette idée que planter des arbres, c'est important pour les générations futures. Et la vie m'a amené ici, et c'est une formidable rencontre que j'ai eue avec des héritières d'une propriété qui voulait vendre un arboretum, voilà. Et donc, il n'y a pas tout à fait de hasard dans la vie, quoi. Enfin, où le hasard fait bien les choses, quelquefois, quoi. Voilà les quelques petits événements qui restent très importants dans le déroulé de cette histoire, quoi. Enfin.
Comment vous, votre action, elle s'inscrit en lien avec le passé de ce lieu ?
Eh bien, monsieur et madame Nadalon ont donc hérité de ce lieu qui était dans la famille depuis très longtemps, et ils ont voulu donner une nouvelle dimension en ouvrant le parc, en plantant des arbres de différentes espèces, parce qu'ils étaient passionnés d'arbres et de plantes. Et ils ont voulu ouvrir le parc au public, l'animer, le dynamiser et surtout protéger vraiment ce lieu. Les gens de la commune ont l'habitude de venir ici. Ça s'appelle, c'est pas par hasard, ça ne s'appelle pas le parc arboretum Nadalon ou Guinroc maintenant, ça s'appelle le parc arboretum de Saint-Sautier. Et les gens de la commune et des alentours, ils viennent vraiment facilement, quoi. C'est un peu leur parc aussi.
À ce moment-là de notre discussion, on s'est dit qu'il était temps de poser nos dernières questions. Si vous résumiez votre projet en trois mots, ça serait quoi ces trois mots ?
Alors oui, préserver, animer et puis échanger aussi, parce que moi je suis souvent dans le parc et j'adore discuter avec les gens qui franchissent les portes, quoi.
Et si on refaisait l'histoire, est-ce que vous changeriez quelque chose ?
Ah, jusqu'à maintenant, non, pas du tout, non. Non, non, je suis très heureux d'être là, d'être un nouveau Corrézien sur ce plateau un peu secret, un peu sauvage. Ça me plaît vraiment. J'ai choisi d'y habiter à l'année et je suis très heureux d'être là. J'ai été accueilli par les gens du village vraiment de façon remarquable. Je ne vous ai pas dit, mais la première année, voyant l'ampleur de la tâche, j'ai proposé à M. le maire d'organiser un chantier participatif sur une journée entière. Et M. le maire m'a dit tout de suite, il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu vas voir, les gens de Saint-Sautier, ils vont venir, et moi le premier. Et un samedi, on a commencé à 9h le matin, il y avait des gens. Le plus petit, c'était un petit-fils Nadalon qui est venu. Il avait 5 ans et la dame la plus âgée avait 92 ans. Donc il y avait toutes les générations, on était 19 personnes. J'avais prévu le repas du midi, on a partagé ça. On a bossé toute la journée et moi, ça m'a fait rencontrer des gens de Saint-Sautier immédiatement, quoi, 2 mois après que je sois là. Et tout le monde m'a aidé. On a passé une journée magnifique et ça a donné le ton de mon accueil ici, quoi. Dans un petit village, on est plus souvent solidaire que à chercher des poux dans la tête du voisin. On a besoin de solidarité.
Et ce lieu, dans 5, 10, 20 ans, il ressemblera à quoi ?
Eh bien, ce sera encore un arboretum, je l'espère. Voilà. Alors, qui me succédera, je n'en sais rien. J'aimerais que ce lieu, si c'est mes enfants qui en héritent, eh bien, qui le conservent ou qui le transmettent à des passionnés de nature. Voilà, j'aimerais vraiment que ce qu'ont fait mes prédécesseurs, ce que je fais moi, ça puisse être transmis aux générations futures un peu dans le même esprit, quoi. Il faut que ça reste un endroit préservé et accueillant.
Un lieu préservé et accueillant à transmettre aux générations futures, c'est le joli point final de cet épisode lumineux enregistré avec Guy. Une rencontre tout en poésie et une immersion sensible au cœur du végétal que l'on vous recommande chaudement. C'était Sésame ouvre-toi, merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles pépites.
Alors, si vous me dites de commenter tout ça, je prends un moment. Un renard, un blaireau, une belette. Et puis j'ai vu un triton marbré, alors là c'est déjà beaucoup plus exceptionnel.
C'est vrai qu'il faut quand même préciser, puisqu'on est à la radio, que ces rhododendrons sont vraiment énormes.
Oui, puisqu'on est à la radio, celui-là il fait 15 mètres de large et 6 mètres de haut, quoi. Ouais. Voilà. Il y a un genévrier là-bas qui a une écorce, quand on passe la main dessus, elle est sonore. On pourrait écouter si vous voulez. Je fais remarquer une forme dans ce hêtre qui est un peu spéciale, ici. Alors, c'est un nombril.
Bon, c'est oui. Radiophoniquement, c'est compliqué. Disons que ça peut être aussi l'arrière-train d'un éléphant.
Oui.
Ben merci, c'est un très beau message.